sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le père Pascal Scordino.
En hommage à Père Placide Zeille, nous diffusons aujourd'hui son homélie du dimanche du triomphe de l'orthodoxie ou triomphe de l'icône de l'année 2005. Mémoire éternelle.
Cette première semaine de carême qui commençait l'année dernière, nous sommes parvenus à ce qu'on appelle le premier dimanche de carême. Mais cette appellation est, je dirais, inexacte, car il n'y a pas en réalité de dimanche de carême. Le carême comporte essentiellement les jours de semaine, les jours de semaine du lundi au vendredi inclus, le samedi étant déjà en dehors du carême, d'une certaine façon, étant consacré davantage aux défunts, rappelant la descente du Christ aux enfers et déjà son triomphe sur la mort, mais le dimanche, chaque dimanche de l'année, et dimanche de carême comme les autres, célèbre essentiellement déjà la résurrection du Christ. Le dimanche est une Pâque hebdomadaire. Chaque dimanche, les textes liturgiques de l'office, l'évangile de l'orthodoxe, nous rappellent la résurrection du Christ. Nous la font revivre. Quand on lit les pères des premiers siècles, on voit que pour le chrétien, que le chrétien, c'est un homme, ou les chrétiens sont des hommes qui s'assemblent le dimanche pour célébrer ensemble la résurrection du Christ. C'est cela la marque fondamentale du chrétien. Célébrer la résurrection du Christ et avant tout autour de la célébration de l'Eucharistie du dimanche. Et ceci doit colorer toute notre vie chrétienne. Il y a dans notre vie ici-bas bien des motifs de tristesse, bien des motifs d'être déprimé, bien des motifs, je dirais même, se désespérer. Mais il y a le dimanche qui remet en face de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité. En lui, toute l'humanité est potentiellement ressuscité. Bien sûr, il faut que chacun d'entre nous, participant au combat rédempteur du Christ, dans ce combat spirituel que nous avons mené tous les jours contre les tentations, contre les vices, nous participions à cette victoire du Christ grâce à sa force, grâce au don de son Esprit Saint. Mais le Christ lui-même, celui que nous aimons, l'époux de nos âmes, est ressuscité, est entré pleinement et définitivement dans la joie du Père. Et cela doit nous aider à nous décentrer de nous-mêmes, de nous décentrer de nos tristesses, de nos inquiétudes, pour nous réjouir de cette joie, oui, de celui que nous aimons, et qui est entré dans cette joie du Père, dans cette joie de la Trinité Sainte. Oui, ceci doit donner à toute notre vie chrétienne une coloration avant tout de joie. De joie, nous sommes ceux qui célèbrent vraiment chaque dimanche la résurrection du Christ. Et c'est parce que les dimanches de carême ne sont pas vraiment des dimanches de carême que la liturgie les consacre à des thèmes qui ne sont pas tous dans un rapport direct, évident avec le carême. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe de l'orthodoxie lorsque, au IXe siècle, au terme des persécutions iconoclastes, la vénération des saintes icônes a été rétablie définitivement dans l'Église. Les grandes persécutions de l'Empire romain avaient pris fin avec la paix de l'Église, avec l'empereur Constantin, au seuil du IVe siècle. Mais malgré cela, pendant pratiquement tout le 8e et presque la moitié du 9e siècle, une autre persécution s'est abattue sur l'Église, du fait des empereurs qui avaient adopté la doctrine, l'hérésie iconoclaste, condamnant le culte des saintes icônes et persécutant d'une façon souvent aussi dure, aussi cruelle que certains empereurs romains jadis, ceux qui restaient le défenseur de cette vénération des saintes icônes. Et si l'Église a attaché cette importance à cette victoire de l'Église contre l'iconoclasme, c'est parce que ce triomphe de l'orthodoxie sur l'iconoclasme est comme le sceau de toute l'œuvre des pères de l'Église et des conciles écuméniques qui, pendant les 9 premiers siècles de l'histoire de l'Église, ont justement combattu pour établir contre toute déviation, contre toutes les erreurs, la véritable doctrine orthodoxe. Et si c'est précisément la définition de la nécessité de la vénération des icônes qui est considérée comme le sceau de l'orthodoxie, le sceau de cette vie en concile, c'est parce qu'en elle se trouve rassemblé l'enseignement de tous ces conciles, et particulièrement des grands conciles qui, entre le 5e et le 6e, 7e siècle, ont bien précisé, bien tracé les limites du dogme concernant le Christ et notre salut dans le Christ. En effet, les empereurs iconoclastes s'appuyaient sur cette prescription que nous trouvons dans l'Ancien Testament où Dieu demandait à Moïse de ne pas faire d'image. Et lorsque les Hébreux ont enfreint cette défense en fabriquant ce veau d'or dans la plaine devant la montagne du Sinaï, Moïse les a blâmés vigoureusement au nom de Dieu et a même brisé les tables de la loi devant ce spectacle inadmissible. Mais c'est précisément parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, ne s'était pas manifesté sous un visage d'homme, encore moins pourrait-on le représenter sous l'image d'un taureau de métal précieux. Mais justement, la grande nouveauté du Nouveau Testament, c'est que Dieu s'est rendu visible dans le Christ. Dieu s'est rendu visible à travers un visage d'homme. Et Dieu nous a communiqué son énergie divine pour nous faire participer à sa vie à travers la sainte humanité du Christ glorifié et ressuscité. Et c'est pour cela que, sous le Nouveau Testament, non seulement nous pouvons, mais nous devons représenter le visage du Christ et le visage des saints qui sont les membres du Christ. Comme on nous rappelait hier soir au cours de la Griffinie, dans la lecture d'un texte de Saint Jean Damascène, nous ne vénérons pas comme telle une planche de bois, que nous vénérons une icône. Ce serait de la superstition, ce serait de l'idolâtrie. Mais le Christ est, dans sa nature humaine elle-même, pénétré des énergies divines. Les énergies divines rayonnent de lui et sanctifient même la matière terrestre. La matière des sacrements, l'eau du baptême, l'huile de l'onction, et plus que tout, le pain et le vin de l'Eucharistie qu'il transforme dans son propre corps et son propre sang par cette énergie divine qui rayonne de lui. Mais les saintes icônes, dès lors qu'elles représentent leur prototype divin, le visage du Christ ou le visage de ses membres, eh bien les saintes icônes sont elles-mêmes sanctifiées par cette énergie divine et la rayonne sur nous. Et c'est pour cela que nous devons les vénérer. Oui, à travers les saintes icônes, c'est cette énergie vivifiante et divinisante de l'Esprit Saint qui peut nous atteindre si nous les vénérons avec foi. Ainsi donc, c'est tout le mystère de notre rédemption qui est évoqué, qui est rendu présent parmi nous par cette célébration de la victoire de l'orthodoxie sur l'iconoclasme. Nous sommes sur le Nouveau Testament et ce qui est l'essentiel de l'Évangile, ce ne sont pas d'abord les préceptes, les conseils que le Christ nous donne, c'est le fait que lui-même est Dieu qui nous est apparu. Oui. Le Seigneur est Dieu et il nous est apparu et il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Et en vénérant les saintes icônes, eh bien, c'est un aspect fondamental de ce mystère que nous célébrons. Puisque notre carême est illuminé par cette présence de la résurrection qui est déjà ainsi évoquée chaque dimanche, et que les saintes icônes qui rayonnent cette lumière de la résurrection du Christ, même si ce n'est pas directement sa résurrection qu'elle représente, mais c'est toujours les mystères du Christ dans leur aspect éternel, leur aspect transfiguré, tels qu'ils sont dans l'éternité, toujours présents dans le Christ. Ce sont les saints dans la mesure où ils participent, où ils sont des membres du Christ ressuscité, transfiguré. C'est tout cela que saint icône rend présent parmi nous. Eh bien, puisse cette joie illuminer notre carême, illuminer toute notre vie chrétienne, toute notre année liturgique, par ce retour hebdomadaire de la fête de Pâques, cette Pâques dominicale que nous célébrons chaque semaine, et puis aussi par cette vénération des icônes à travers lesquelles resplendit pour nous le visage du Christ ressuscité, pour que, pour reprendre l'expression d'un des saints-pères de Philothée le Sinaïte, il se photographie en trait de lumière sur notre cœur. Oui, c'est un père de l'Église qui a inventé le mot de photographie, ou plutôt de phototypie, dès à une époque, on ne peut pas exactement préciser, c'est un moine ou un igoumène du Sinaï, dont on ne connaît pas exactement les dates, mais en tout cas, entre le 9e et le 11e siècle. Eh bien oui, puis ce visage du Christ, nous vénérons sur les icônes, se photographier, se phototyper, typer en trait de lumière sur notre cœur. C'est là tout le but de notre itinéraire, notre assaise de carême, et tout le but aussi de ces Eucharisties que nous célébrons chaque dimanche, à la gloire du Christ, à la gloire du Père et de l'Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen.